VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 19 décembre 2023. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. À la veille des élections en République démocratique du Congo, notre envoyé spécial fera le point sur le climat à Kinshasa, en Guinée. Après l'incendie d'un dépôt de carburant, beaucoup d'élan de solidarité à Conakry. Notre correspondant sur place fera un état des lieux. À Paris, le verdict est attendu aujourd'hui pour l'ancien médecin rwandais Sosten Mounyemana. Le procureur a requis hier 30 ans de prison. Dans notre partie magazine, l'Université du Maryland accueille plus de 5000 étudiants étrangers. Quelles sont les raisons qui les poussent à choisir les États-Unis pour leurs études? Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, quelques 44 millions d'électeurs inscrits sont attendus aux urnes demain mercredi pour élire entre autres leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. À Kinshasa, les gens vaquent à leurs occupations car la campagne s'est terminée hier soir. Les précisions avec John Lindon, notre envoyé spécial à Kinshasa.
À Kinshasa, comme d'habitude, les rues grouillent de monde. La fièvre électorale est tombée hier soir avec la fin officielle de la campagne. Pour la présidentielle, à un seul tour, Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat, fait face à 18 candidats dont les plus en vue sont Moïse Katumbi, Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege. Tous les Congolais ont grand espoir que celui qui prendra les commandes du pays va travailler pour l'intérêt général et œuvrer pour que la sécurité règne sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de ces scrutins à haut risque, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné son inquiétude concernant l'escalade de la violence dans l'Est et les tensions entre le Rwanda et la RDC, mais a aussi engagé mardi un retrait anticipé et progressif des casques bleus à partir de fin 2023, comme réclamé par Kinshasa. John Linden, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa.
En Guinée, les autorités annoncent un bilan de 14 morts après l'incendie qui s'est déclaré dans le plus grand dépôt d'hydrocarbures de la capitale. Ce mardi, les stations-service sont restées fermées, élèves et étudiants priés de rester à la maison jusqu'en janvier. Et on ne sait toujours pas ce qui a causé l'explosion dans ce dépôt de carburant de Conakry. Le gouvernement assure que l'incendie a été maîtrisé. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
La circulation un peu moins dense à Conakry, l'une des conséquences de l'incendie dans le plus grand dépôt de carburant de la capitale. La chaîne de solidarité lancée hier se poursuit au palais du peuple de Conakry. Des Guinéens d'ici et d'ailleurs continuent de faire parler leur cœur. Des vêtements, de la nourriture et de l'argent sont collectés pour venir en aide aux sinistrés. Des victimes dont la prise en charge est gratuite est assurée par le gouvernement guinéen. 190 blessés sont recensés, dont 113 ont regagné leur famille. Le nombre de décès, lui, est passé de 13 à 14. Des dégâts matériels importants sont annoncés par les autorités guinéennes. 13 bacs sont entièrement hors service. Le souffle de l'explosion a provoqué d'importants dommages non encore évalué. On note l'arrivée progressive des équipes d'assistance des pays voisins selon un communiqué du gouvernement. Le gouvernement guinéen qui a décidé de réaménager le calendrier des congés de Noël. Les élèves et étudiants sont invités à rester à la maison à partir du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2024. L'incendie a été circonscrit, rassure les autorités guinéennes. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Burkina Faso, le pouvoir accuse des groupes djihadistes de commettre des massacres contre des civils dans le nord du pays, invitant les populations à n'accorder aucun crédit à des images d'exactions commises par des hommes armés présentés comme des soldats burkinabés, a écrit le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Jean-Emmanuel Ouédraogo. Dans un communiqué, ces vidéos tentent de faire croire que des massacres de civils ont été perpétrés par les forces combattantes burkinabées, a-t-il ajouté, dénonçant une campagne de communication alimentée par les terroristes concernant des massacres qu'ils ont eux-mêmes perpétrés. Au Soudan, les forces de soutien rapide se sont emparées lundi de Roufa et font de nouvelles incursions dans la ville voisine de Wad Madani, dans l'état d'Al Jazeera, dans le centre-est, jusque-là épargné par les hostilités. L'armée a pour sa part assuré que la situation sécuritaire dans l'état d'Al Jazeera s'est stabilisée, appelant les habitants à ne pas quitter leur maison. Dans la vaste région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, une source militaire dit que l'armée a frappé l'aéroport de Niala, deuxième ville du pays, ainsi que les bâtiments de la 16e division d'infanterie que les paramilitaires ont dit avoir pris en octobre. Au terme de 6 semaines de procès devant la Cour d'assises de Paris, le verdict est attendu ce mardi pour l'ancien médecin rwandais Sosthène Munyemana, jugé pour son implication éventuelle dans le génocide des Tutsis en 1994 qu'il conteste. Le point avec Jacques Aristide.
L'accusé âgé de 68 ans a assuré dans ses derniers mots à la barre, avant que la cour ne se retire pour délibérer, qu'il avait agi pour sauver des vies. Sosthène Munyemana comparaissait depuis le 14 novembre en vertu de la compétence universelle de la justice française pour génocide, crime contre l'humanité, participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes, de même que pour complicité. Hier, les avocats généraux ont requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle à son encontre, estimant que la somme de ses choix dessinait les traits d'un génocidaire. Sosthène Munyemana se voit reprocher d'avoir signé une motion de soutien au gouvernement intérimaire instituée après l'attentat contre l'avion du président Hutu Juvénal Habyarimana qui encourageait les tueries commises entre avril et juillet 1994. Le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts, pour la plupart d'ethnie Tutsi, d'après l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne annonce l'ouverture d'une enquête après la mort en détention de plusieurs Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le point avec Abdourahmane Tia.
Il s'agit de Palestiniens qui étaient détenus dans une base militaire du sud israélien où ils avaient été transférés après leur arrestation avec des centaines d'autres selon un quotidien. Un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'une enquête sur des décès de terroristes dans les centres de détention militaire était en cours sans préciser le nombre de détenus concernés ni les circonstances de leur mort. Par ailleurs, le comité international de la Croix-Rouge, accusé de ne pas faire assez pour les otages et les prisonniers à Gaza, n'entend pas abandonner sa neutralité, a affirmé sa patronne mardi de retour de la région. Pendant ce temps, ici à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU cherche toujours un compromis pour parler d'une seule voix avant un vote attendu mardi sur une nouvelle résolution dont la dernière version appelle à une suspension des hostilités à Gaza pour permettre l'accès de l'aide humanitaire. Moins de 2 semaines après un veto américain, le vote prévu lundi a été reporté officiellement à ce mardi matin pour permettre de poursuivre les négociations et éviter une nouvelle impasse, mais il pourrait à nouveau être repoussé selon des sources diplomatiques.
La vice-présidente américaine Kamala Harris va se lancer en début 2024 dans une tournée aux États-Unis pour défendre le droit à l'avortement que plusieurs États américains ont restreint ou interdit depuis la fin de la garantie fédérale à l'IVG en 2022. Le sujet devrait fortement peser sur la présidentielle de novembre 2024 à laquelle Joe Biden est candidat. Les extrémistes à travers notre pays continuent de mener un assaut de grande envergure contre des libertés acquises de haute lutte, a dit Kamala Harris dans un communiqué publié mardi en allusion à ses opposants républicains. Je continuerai à me battre pour nos libertés fondamentales et rassemblerai ceux qui, dans toute l'Amérique, pensent que chaque femme devrait avoir le droit de prendre des décisions concernant son propre corps, pas les autorités, a ajouté la démocrate. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé à une réponse internationale robuste au tir de missiles nouvelles de la Corée du Nord dans un communiqué diffusé mardi. Il faut une réponse internationale robuste, rapide, unie, particulièrement de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies aux actions téméraires répétées de la Corée du Nord, disent les ministres dans un communiqué publié par le gouvernement américain. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Lionel Unaniagaima.
Le fils ghanéen de commercialisation du cacao a signé un prêt syndiqué de 800 millions de dollars avec des banques, prévoyant de retirer les premiers 600 millions de dollars cette semaine, a déclaré ce mardi la direction générale de Cocoa Board. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, utilise un prêt syndiqué annuel pour financer les achats de fèves auprès des agriculteurs, habituellement en début de saison en septembre. Le prêt de cette année a connu des retards. Le prix garanti bord champ du cacao au Cameroun pour la campagne 2023-2024 a été fixé à 1500 francs CFA le kilo contre 900 francs CFA en 2022-2023. Le Cameroun profite du malaise du Ghana et de la Côte d'Ivoire à la suite des inondations et des virus des pousses gonflées du cacao. Les prix devraient baisser d'ici 2025 lorsque la production reprendra en Afrique de l'Ouest, estime la société agrotechnologique Head Farmers Cameroun. Le taux de croissance du produit intérieur brut dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, en 2023 connaît une nette régression de 2,2% contre 2,8% en 2022. Au plan sous-régional, d'après la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, cette baisse est principalement due au recul important de l'activité pétrolière, soit moins 2,7% en 2023 contre moins 0,7% en 2022.
Place maintenant au sport avec Nanit Salami. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
CAN 2023, le Cameroun va se préparer en Arabie Saoudite.
C'est ce qu'a effectivement décidé la Fédération Camerounaise de Football. Le stage de préparation pour les Lions Indomptables débutera le 27 décembre à Jeddah en Arabie Saoudite. Environ 30 joueurs retenus y seront pour une semaine avant de rejoindre Yaoundé pour disputer un autre match amical, mais cette fois-ci contre la Guinée équatoriale, le 8 janvier. La FECAFOOT essaie de trouver aussi un second match de préparation avant la CAN et l'entrée en lice des Lions Indomptables le 15 janvier contre la Guinée.
Une autre équipe en préparation, cette fois-ci pour la Coupe du Monde de Beach Soccer, le Sénégal qui a battu l'Iran en amical.
Et oui, les Lions de la Teranga du Sénégal qui se préparent en Iran pour la Coupe du Monde de Beach Soccer prévue du 15 au 25 février 2024 à Dubaï ont disputé aujourd'hui, mardi 19 décembre, un match amical contre l'Iran qu'ils ont battu 2-1. Les Sénégalais devraient encore jouer contre l'Iran demain mercredi et vendredi. Ce sera la septième fois que le Sénégal prendra part au Mondial de Beach Soccer. Il sera dans le groupe C avec le Japon, la Biélorussie et la Colombie.
Le conseil de la FIFA confirme des éléments clés de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025.
Rappelons tout d'abord, Rosine, que ce sera la première édition de la Coupe interclub de la FIFA avec 32 équipes des 6 confédérations continentales, 12 de l'UEFA, 6 de la CONMEBOL, 4 de l'FC, 4 de la CAF, 4 de la CONCACAF, une équipe de l'OFC ainsi qu'une équipe du pays hôte. Elle aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis et prévoit au moins 3 jours de repos entre 2 matchs afin de préserver le bien-être des joueurs. Voici la méthode approuvée pour établir un classement standard. 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 3 points pour chaque qualification au tour suivant de la compétition. Quant au format, il s'agira d'une phase de groupe comprenant 8 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les 8e de finale. Ce sera en fait une phase à élimination directe, match unique, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Il n'y aura pas de match pour la 3e place. L'Afrique sera représentée par 4 équipes, donc les 3 vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF 2020-2021 et 2022-2023, donc Al Ahly d'Égypte 2021-2022, Wydad Casablanca du Maroc, tandis qu'on attend encore le vainqueur de la saison 2023-2024. La 4e équipe, c'est celle qui sera déterminée par voie de classement.
Disponible au monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monedzelo de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les violences électorales menacent le déroulement du scrutin du 20 décembre selon Human Rights Watch. L'ONG dit avoir documenté des affrontements à travers le pays entre des partisans de partis politiques rivaux qui ont conduit à des agressions, des violences et au moins un décès. Les autorités congolaises devraient agir de toute urgence pour prévenir les violences avant, pendant et après le scrutin. Antoine Roger Bolamba a joint Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch.
Oui, en effet, la campagne électorale qui vient de prendre fin a été tendue. Au Congo, elle a été émaillée de violences. Nous avons documenté des affrontements entre militants de partis politiques rivaux, des cas de violences sexuelles même et de morts. Il y a eu des actes de vandalisme contre des bureaux de partis et des actes d'intolérance politique. Et malheureusement, cette violence a continué d'ailleurs en fin de semaine dernière depuis la publication de notre rapport. Il y a eu encore des violences dans des rassemblements, des blessés. Il y a même eu un mort dans le sud-est du pays, à Fungurume. Il y a eu un candidat à la députation UDPS qui a été tué dans le sud Kivu, à Uvira. Un autre candidat, lui aussi affilié au parti présidentiel, qui a été tué dans une embuscade à Beni. Donc c'est une fin de campagne extrêmement violente et tendue. Ces violences pourraient menacer le déroulement du scrutin si rien n'est fait pour les empêcher et pour que cette situation déjà dangereuse ne dégénère.
Selon vous, qu'est-ce qui serait principalement la cause ou bien la base de ce genre de violences, selon vous?
C'est l'intolérance politique qui a plané sur cette campagne électorale et les tensions politiques entre partis politiques rivaux, notamment des tensions qui se basent sur, pour l'opposition par exemple, un manque de confiance dans le processus électoral, le fait qu'il n'y a pas eu une transparence totale sur les diverses étapes des préparatifs électoraux. De l'autre côté, entre rivaux, voilà cette intolérance politique qui fait qu'on n'a pas toujours accepté les rassemblements se tiennent ici et là.
La campagne électorale s'est arrêtée hier et éventuellement, maintenant, nous sommes à quelques heures, si vous voulez, à un jour pratiquement du scrutin. Comment éviter ce type de conflit, ce type d'intolérance politique, ce type de violence à la veille des élections, même après les élections?
Les autorités congolaises devraient évidemment assurer la sécurité et la sûreté de tous les observateurs électoraux mobilisés dans le pays, qui ont un travail colossal à effectuer.
Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch.
Dans Washington Forum cette semaine, zoom sur les élections générales en RDC. Plus de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux ainsi que leurs conseillers communaux. Félix Tshisekedi prit en second mandat face à 18 autres candidats. Un scrutin crucial pour ce vaste pays dont la partie orientale est en proie à plusieurs conflits armés et qui se tient au moment où le gouvernement a annoncé un calendrier de retrait de la MONUSCO. Quel bilan tirer de la campagne et des élections? Quelles priorités pour le prochain quinquennat? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Gobidia et sa famille sont originaires de la République démocratique du Congo. Ils ont passé de nombreuses années en Tanzanie avant d'obtenir la réinstallation aux États-Unis en 2016. Elle a toujours été agricultrice, parle le swahili et apprend l'anglais. À Houston, Gobidia cultive des légumes biologiques dans sa ferme, d'où elle exprime ses attentes des élections en RDC. Blanche Sanou est allée à son rencontre au Texas.
À la veille des élections en République démocratique du Congo, les électeurs ont exprimé l'espoir que le scrutin serait bien organisé et se déroulerait sans violence. Dans sa ferme depuis Houston, Bobilia a des attentes pour le vote dans son pays d'origine.
Je vis aux États-Unis depuis 11 ans avec ma famille et mes enfants. Mes attentes pour notre pays, le Congo, c'est d'avoir la paix. Les élections arrivent et le peuple congolais pourra choisir le nouveau président. Je demande en premier à celui qui sera élu d'apporter la paix à l'ensemble du Congo. Parce que la paix dans le pays et dans le monde est importante. Même si vous n'avez pas de nourriture et que vous êtes dans un endroit paisible, vous vous sentirez bien. Ensuite, je souhaite le développement et la scolarisation des enfants. Et les agriculteurs devraient être propriétaires au Congo, être reconnus. Et les aliments qu'ils cultivent au Congo doivent être disponibles sur le marché. Je demande l'éducation des enfants, de tous les enfants, pas seulement de moi, mais des enfants du monde entier. Parce que l'école est la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Si vous allez à l'école, vous ne serez pas des mendiants, vous n'allez pas voler. Mais si vous avez de la chance d'aller à l'école, votre vie sera faite de travail grâce aux leçons que vous avez étudiées. C'est pourquoi je prie pour l'éducation des enfants. Que tous les enfants aillent à l'école, que Dieu leur donne une éducation.
Originaire de la province du Sud, Kivu, Bobilia se désole du fait que les électeurs des zones occupées par les combattants du M23 ne pourront pas voter mercredi.
Comme le vote n'a pas encore eu lieu et comme je ne connais pas celui qui va être élu, je demande à celui qui sera choisi de diriger le pays avec la volonté de Dieu. Qu'il ne compte pas seulement sur son intelligence pour diriger le pays, car il ne s'en sortira pas s'il ne suit pas la volonté de Dieu.
Plus d'un million de personnes ont été déplacées à cause des affrontements armés, selon les chiffres publiés fin novembre par l'Organisation internationale pour les migrations.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au nord de Washington, l'Université du Maryland accueille plus de 5000 étudiants étrangers, la plupart poursuivant des études de maîtrise ou de doctorat. Laura Bowman de la VOA examine les raisons pour lesquelles ils choisissent d'étudier aux États-Unis et ce dont ils ont besoin pour réussir. Le récit avec Lionel Gaïm.
Kemi Boussari est journaliste au Nigeria. Il a choisi de faire son doctorat en journalisme aux États-Unis en raison de la renommée mondiale de ses professeurs.
J'ai regardé la faculté et j'ai vu des professeurs qui ont été journalistes à un moment de leur vie et qui enseignent maintenant à l'université. Ce sont également des professeurs dont j'ai lu certains travaux sans même savoir que je finirais à l'université du Maryland.
L'Indien Himanshu Survey, étudiant en maîtrise, estime que les cours d'ingénierat des télécommunications aux États-Unis sont plus pratiques que ceux qu'il recevait ailleurs.
Les États-Unis offrent une bonne exposition en matière de formation. L'accent est mis davantage sur la formation pratique que sur la théorie, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de faire le lien avec ce que l'on apprend ici.
Jody Heckman-Bowles, directrice associée au service des étudiants étrangers à l'Université du Maryland, explique que de nombreux étudiants étrangers décident aussi de poursuivre leurs études supérieures aux États-Unis en raison des possibilités de travail en alternance appelée « graduate assistantship ».
Il s'agit d'un engagement de 20 heures par semaine auprès du département dans lequel vous êtes admis. Vous pouvez travailler en tant qu'assistant d'enseignement, assistant de recherche ou simplement assistant général. Et en échange de ce travail, vous bénéficiez d'une remise de frais de scolarité, ce qui signifie que vous ne payez pas de frais de scolarité.
Elle rappelle aux étudiants étrangers qui souhaitent étudier aux États-Unis qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Comme organiser le logement et payer le loyer, trouver des colocataires, obtenir une assurance maladie, obtenir des visas, ouvrir des comptes bancaires et demander un numéro de sécurité sociale s'ils veulent travailler.
En tant qu'étudiant étranger, obtenir un logement a été très difficile. Ensuite, il a fallu choisir la bonne banque, les bons opérateurs de téléphonie mobile.
La clé est d'essayer de commencer tôt, avant que les cours ne commencent. J'avais déjà un compte en banque, j'avais déjà fait des progrès en ce qui concerne mon assurance maladie. J'avais déjà fait des démarches pour obtenir ma carte de sécurité sociale.
Madame Ekman-Bose rappelle aux futurs étudiants étrangers que les universités offrent de nombreuses ressources pour les aider à s'installer aux États-Unis. Et après la pandémie de COVID-19, son université a mis en ligne une grande partie de ses activités de sensibilisation auprès des étudiants étrangers.
Nous avons été en mesure d'être en contact avec les étudiants avant leur arrivée. Ainsi, lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine et qu'ils attendent de venir aux États-Unis, nous leur fournissons des informations sur le logement, l'assurance maladie et l'obtention d'un permis de conduire.
Aussi, se préparer longtemps à l'avance peut aider l'étudiant étranger à trouver son chemin aux États-Unis et peut-être même réaliser le rêve américain.
Chaque année, des foules de touristes et de locaux sont attirés par les vitrines des grands magasins de New York pour les fêtes de fin d'année. Aaron Renan nous entraîne dans une visite guidée depuis la Grosse Pomme avec le récit de Michel Joseph.
C'est la période des fêtes à New York. Les rues sont bondées de visiteurs et d'habitants désireux de voir les chefs-d'œuvre illuminés, les vitrines des grands magasins et des détaillants emblématiques de la ville. Diane Lowery est venue de Denver, dans le Colorado.
Ils sont fabuleux, ils sont au top. Ils sont fabuleux, vous ne verrez jamais rien de tel. Je viens chaque année pour les voir et chaque année, ils ne me déçoivent pas.
Christy Rushing est venue du Kentucky.
Ils sont brillants, spectaculaires. Je veux dire, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. La plupart du temps, je le fais sur Internet. Alors, être ici et voir tout cela est tout simplement merveilleux. Et j'apprécie aussi la partie shopping.
Ces étalages éblouissants ne se contentent pas de divertir et d'attirer les clients. Ils génèrent aussi beaucoup de revenus aux grands magasins à l'ère du numérique. Anne Kang est professeure à l'Institut de technologie de la mode.
They're a vital tool for retailers. And,
ils sont un outil essentiel pour les détaillants. Ils servent de pont entre le physique et le numérique de la vente au détail. Elles offrent de grandes possibilités de raconter des histoires et d'engager les clients d'une manière unique.
Ces vitrines, pour la période des fêtes, ornent les rues de New York depuis plus d'un siècle. Anne Kang, professeure à l'Institut de technologie de la mode.
Les fenêtres de vacances et les vitrines en général remontent à la fin des années 1800 ou au début des années 1900 et étaient beaucoup plus raffinées. Les fenêtres de Noël ont toujours été un cadeau pour la ville.
Cette année, l'offre comprend la vitrine de diamants de Tiffany, les scènes de New York et de Paris de Saks sur la 5e avenue, réalisées en collaboration avec Dior, les effets de lumière, de chrome et de miroir de Bergdorf Goodman et le partenariat sur le thème de Wonka de Bloomingdale qui s'inspire du nouveau film de Warner Brothers. John Klimkowski est vice-président du Merchandising Visual et des vitrines du grand magasin Bloomingdale.
Lorsque nous avons conçu les vitrines, nous avons vraiment cherché à faire ressortir l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Les petites touches et les détails de paillettes et les bonbons qui composent une veste commencent vraiment à surprendre et à ravir l'observateur.
Selon M. Klimkowski, ces vitrines incitent aussi les acheteurs en ligne à se rendre physiquement dans les magasins.
Lorsque vous êtes totalement immergé dans l'expérience dans la rue, lorsque vous regardez les vitrines et que vous êtes ravi, vous ne pouvez pas égaler cela en restant assis sur votre canapé à la maison.
L'animation des rues et l'engouement des passants devant ces vitrines spectaculaires sont une autre preuve que les traditions ont la peau dure et qu'elles ont encore un bel avenir à New York.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero à la mise en onde de Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.